Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. C'est le 62e épisode, l'épisode numéro 61, et nous sommes le 5 janvier 2022.
Bonne année !
Voilà, donc comme ça, ça c'est fait, et on souhaite à tous une bonne année, de la bonne santé et de la jolie technologie. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de gens absolument splendides et merveilleux, tels que Marc-Antoine Perrenou. Bonjour Marco.
Bonjour.
Qui es-tu ?
Alors, moi je suis dinosaure chez Clever Cloud, c'est-à-dire que je suis là depuis longtemps. J'élève principalement des VM et j'essaye d'élever le moins de bugs possible. Ou de les enlever quand ils traînent un peu trop par là.
Nous avons également Julien Durillon.
Julien, bonjour, bonne année.
Bonne année à toi aussi.
Et moi, chez Clever Cloud, je fais tout un tas de trucs. J'envoie des factures en ce moment.
Quand je fais envoyer des factures. C'est vrai que c'est une autre émission.
Ouais.
Donc, si vous avez des problèmes de factures, vous en parlez.
C'est ma faute. Voilà.
Et également Pierre Zemb. Bonjour Pierre.
Bonjour, du coup je m'appelle Pierre et je bosse plutôt côté data et en ce moment sur des access logs.
Oui, on est en train de retaper un peu la partie qu'on appelle observabilité chez nous, pour faire simple. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas d'invité pour cet épisode. Alors la première raison, c'est que je l'ai organisé à l'arrache, mais aussi parce que, comme vous êtes en train de le pressentir, il s'agit d'un spécial kernel. On doit avoir un bon 3 kernels de retard, je pense. Et donc on s'est dit qu'on allait tous les tasser à ce moment-là. Donc on fait un peu de news et ensuite on dépile les histoires de kernel, si ça va à tout le monde. La première news très société, une class action contre Google et Apple, c'est ça ?
Alors en gros, l'idée c'est que c'est plutôt public comme info, mais Google paye Apple depuis un bon moment pour rester le moteur de recherche par défaut sur tous les devices d'Apple. Ils font pas ça que avec Apple d'ailleurs, hein. On sait qu'ils le faisaient notamment avec Firefox à une époque et tout. Sauf que là, Apple, c'est un des gros qui serait en capacité de faire leur propre moteur de recherche qui pourrait venir en concurrence à celui de Google, comme Microsoft a fait avec Bing, par exemple. Et du coup, Google, là, il paye des gros, gros billets, on parle de plusieurs milliards de dollars, pour que Apple ne développe pas son propre concurrent en interne. Et du coup, ça, apparemment, ça viendrait en violation du Trust Act ou quelque chose comme ça aux US, et du coup il y a pas mal de boîtes du milieu de l'IT qui se sont mis ensemble pour faire un procès justement contre Google et Apple sur cette entente un peu trop cordiale à ce niveau-là qui déséquilibre le marché finalement.
Oui, parce qu'en fait ce qui est reproché, c'est de dire que le paiement pour que Google reste le moteur de recherche par défaut pourrait masquer le paiement du fait que Apple décide de ne pas attaquer le marché de Google, et que en fait aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de documentation des rencontres entre les CEO des deux entreprises, et entre autres la class action vise à récupérer de l'information à propos de ces rencontres là pour vérifier si effectivement il n'y a pas une entente, surtout que comme Apple a quand même un business d'advertising, enfin ils ont un marché sur l'advertising, et que par ailleurs ils ont un moteur de recherche qu'ils utilisent déjà pour les réponses Spotlight et Siri, c'est juste qu'en fait il n'y a pas de page web pour rentrer une requête dedans. Il y a des gens qui se posent de graves questions sur cette partie-là. Et en plus, Google joue un jeu dangereux, parce que si jamais, pour faire taire la plainte, Apple lance son propre moteur de recherche et que le prix pour rester moteur de recherche par défaut dans l'iPhone payé par Google baisse, on va dire que ce serait admettre la faute. Donc oui, il joue un jeu difficile là-dessus. Bah, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve que c'est bien, en fait, de voir enfin les. Il y a des lois contre les monopoles et les consortiums trop larges, en fait, aux États-Unis, de les voir enfin être utilisés. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça a déjà été fait, notamment dans le domaine du pétrole. Ça a été fait. C'est ce qui a donné vie à Exxon, Mobil, Conoco, Aramco, etc. Donc c'est des lois, c'est bien qu'elles soient appliquées, et aujourd'hui je pense que c'est un vrai sujet, que ce soit sur Amazon ou que ce soit sur Google, qui sont des boîtes qui ont cette vision très prédatrice du marché. Donc je pense que c'est une bonne chose. Je sais pas ce que vous en pensez. En clair,
pas grand chose. On va voir comment ça évolue, quoi. Si ça va vraiment apporter des éléments de clarification.
Et ça va aussi pouvoir filer un peu de doc, parce qu'en fait, à chaque fois dans ce genre de plainte, la documentation, en fait, elle est extraite de la plainte, et on se retrouve avec de la doc un peu juridique ou des rencontres qui permettent de valider des choses. Et en général, c'est assez intéressant. Il y a un compte Twitter d'ailleurs qui ressort régulièrement là. Je sais plus, c'est Tech. Paper, je sais plus quoi.
Celui avec les emails là, les screenshots d'emails. Ouais.
C'est ça. Je sais plus comment s'appelle ce truc.
Ouais, je sais plus. Ouais.
En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que là, c'est un exemple de procès en particulier. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y en a de plus en plus, justement, et que du coup, les gros, les GAFAM ou autres noms qu'on veut les appeler maintenant, vu qu'ils ont tendance à se renommer, il y en a d'autres qui deviennent plus gros et tout ça, ils sont plus intouchables, en fait. Les gens se sont rendus compte que s'ils se mettent ensemble, ils peuvent faire des choses. Il y a qu'à voir ce qui a été fait aussi avec les paiements sur les plateformes iOS, où il y a Fortnite qui a eu gain de cause, par exemple, là-dessus. Alors qu'il y a 5 ans de ça, on n'aurait jamais imaginé affronter Apple là-dessus. Donc c'est bien de voir que justement les gens se bougent et n'ont plus peur d'aller attaquer les gros.
Ok, bon bah parfait. Je vous ai mis le petit lien de Tech Email sur Twitter, c'est intéressant et je pense que ça va nous livrer des choses. Et je pense que par ailleurs... La procureure spéciale Nella Khan, qui a été nommée par Biden, va peut-être permettre de continuer à investiguer ces ententes déplorables entre les géants de la tech qui, en fait, font du mal au commerce international. News suivante. Donc, on est en plein CES. Du coup, il y a pas mal de news hardware. Donc, je vous rassure, je suis pas là pour vous parler des news hardware de style il y a une nouvelle télé chez LG. Bon, ceci dit, il y a une nouvelle télé chez LG, vous pouvez aller voir les nouvelles télés. Si vous avez envie de faire un très gros mur de télé que vous pouvez diviser à plusieurs et tout avec des télés magnifiques et de mettre 100 000 balles dans de la téloche, c'est possible. Ils ont des produits pour ça. Non, là, moi, je voulais vous parler d'une release assez importante de chez Intel autour de Mobile A. En fait, Mobile A, c'est une boîte israélienne que Intel a rachetée il y a 4 ou 5 ans, qui en fait fait des processeurs dédiés à la conduite autonome globalement au car, en fait. Et là, ils ont sorti une grosse release à l'occasion du CES autour de leur nouveau PROC. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant de constater, c'est que ces nouveaux processeurs, donc, qui sont du coup poussés par Intel, parce que Mobileye est une telle technologie à 100%, en fait, c'est un SoC. Et si vous regardez attentivement dans le lien la tronche des SoC et ce qu'il y a dedans, c'est fou ce que ça fait penser à l'architecture d'un M1 quand même, dans lequel on aurait collé la RAM, le GPU, le Neural Engine. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et du coup, je trouve ça assez intéressant. Donc là, ça target vraiment le marché voiture, mais je sais pas jusqu'à quel point ça aurait pas du sens également dans un serveur, quoi.
Bah, de toute façon, on sait bien que là, ça fait un peu trop longtemps qu'on reste sur les mêmes types d'architecture sur les serveurs. Et on sait bien que dans les 5-10 années à venir, grand max, le marché du serveur, il va totalement changer. Et, tout comme le marché du laptop est en train de changer actuellement. Et dans 10 ans, on n'aura plus les mêmes bécanes qu'actuellement. Hein,
c'est toi qui es encore sur une bécane du passé. Moi, j'ai un Mac M1 Pro. Hein. Non, mais en vrai, je trouve ça hyper excitant, moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça hyper excitant, hein, ce qu'ils sont en train de faire là-dessus. Et je trouve que c'est un... Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant de voir ce truc-là avancer. Et, enfin, je pense que ça peut être une des options pour Intel de proposer des choses intéressantes autour des SoC, quand on voit ce que le SoC permet de gagner en perf dans certains cas. Quoi. Voilà. Autre annonce de proc au CES, Intel et AMD ont sorti plein de choses. C'est beaucoup du teasing, c'est ça, hein. Pour l'instant, c'est beaucoup, beaucoup de teasing.
Ouais. J'ai mis un lien de The Verge. Globalement, c'est Intel et AMD qui vont teaser leurs futurs processeurs qui vont sortir cette année. Donc, Intel en a sorti 50 nouveaux processeurs, donc c'est 22 pour des PC, 8 pour des ordinateurs de gaming, pour des portables de gaming, 6 pour les séries P, donc c'est performance, 10 pour la série U, c'est pour les laptops, et 4 pour les Chromebooks et les laptops cheap, j'ai pas le mot français, pas cher. Et Intel tease du 5,5 GHz pour les nouveaux pour leur nouveau super processeur, l'équivalent d'un i9 12 et quelques. Ouais, j'ai regardé un peu, il y a pas tant que ça de tests, c'est vraiment voilà ce qu'on va faire cette année quoi. Voilà ce qui va sortir.
Ouais, puis là c'était très consumer électronique en fait, hein, parce que c'était beaucoup des pros, c'était pas du tout les pros serveurs là qui étaient montrés, hein. Que ce soit chez Intel ou que ce soit chez AMD.
Hein. AMD, ouais.
Chez AMD, ils ont montré les nouveaux Threadripper, c'est ça. Et enfin là, ils ont annoncé la ligne Ryzen 5000. Enfin voilà. C'est la Ryzen 5000, c'est les processeurs qu'ils mettent dans les laptops, la Ryzen 5000.
Ça, c'était l'année dernière, c'était au CES 2021. Donc.
Ah, merde. Je dis n'importe quoi. Oui, donc en fait, ils vont nous annoncer quelque chose, mais on ne sait pas lequel. Ça marche.
Voilà.
Bon, on fouillera ces infos-là s'il y a quelque chose d'intéressant à dire, sachant que de toute façon ça va quand même être la merde toute l'année
en globalement globalement Intel et AMD continuent de faire des processeurs, c'est à peu près la news du CES.
Oui, c'était pas très complet, mais je trouve que la news mobile aide était pour le coup relativement
oui, sur le mobile aide, oui c'est intéressant, ouais. Bah, c'est un changement de paradigme et c'est toujours intéressant à suivre,
ouais. Ok. Allons à la suite. La news suivante est une news pour la privacy. GNU-PG devient économiquement viable.
Ouais, et c'est marrant d'ailleurs parce que donc ça c'est un lien Linux.fr et ça c'est marrant parce que sur la page qui invitait à donner de GNU-PG.org, maintenant il y a un message qui dit c'est plus la peine de donner. On gagne des sous. Ça va, c'est plus la peine. Ils ont même annulé tous les dons récurrents qui avaient été set up sur PayPal par les gens. Voilà, en mode un peu YOLO apparemment, ce qui a fait s'étonner un certain nombre de gens. Et voilà, apparemment pour l'histoire, globalement, ils ont réussi... Enfin, ils ont sorti une version qui s'appelle... j'ai oublié le nom parce que j'ai oublié de le noter. VS quelque chose. GPG VS Desktop, un truc comme ça. Qui est en gros un soft plutôt pour Windows, plutôt desktop, qui est pareil, qui est libre aussi. Et ils ont commencé à vendre beaucoup de contrats de support. autour de ça, et ce qui fait que maintenant ils sont économiquement viables. Apparemment, il n'y a pas non plus grand monde derrière GNU.pg. Ça a l'air d'être toujours une petite équipe, donc effectivement, ils n'ont pas forcément besoin d'être de vendre énormément pour être économiquement viable. Et l'autre truc qui leur a permis de bien vendre aussi et d'assurer leur futur, c'est qu'ils ont été certifiés par l'équivalent de l'ANSI allemande. Alors, c'est le BSI, le Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Vous pouvez admirer mon accent pour ça.
Pas mal.
Voilà. Qui globalement a décidé de avant tourner sur un truc qui s'appelait Chiasmus et qui était un truc qui était pas libre et que en plus ou moins ils ont dû l'algorithme de chiffrement a dû être rétro-ingénieré parce que personne ne savait trop ce qu'ils faisaient, etc. Donc là, ils sont passés sur l'open source avec GNU.pg et donc ils ont certifié ce truc-là. Donc voilà, GNU.pg vous invite maintenant à donner à d'autres projets. Je sais pas si vous avez des idées de projets auxquels donner.
C'est intéressant de voir que au départ, justement, c'est surtout une personne en fait qui développe GNU.pg. Il y a des contributeurs externes, mais le corps, c'est vraiment une personne. Et c'est vrai que développer un gros projet comme ça, utilisé partout et qui en dépense quand même de pas mal de trucs, genre la plupart des distributions vérifient les signatures des paquets et tout ça avec GNU.pg, par exemple. Et c'est vrai que pour l'instant, au départ, pour réussir à continuer, ils demandaient des contributions à des personnes comme vous et moi. Et là, c'est surtout qu'il y a des entreprises du coup qui se sont mis à bien subventionner le truc, que ça soit via du produit payant, du support payant ou juste de la subvention. Et du coup, je trouve que c'est une bonne démarche de leur part du coup de résilier les cotisations qu'avaient des particuliers en fait finalement pour subventionner le truc, parce que c'est plus logique que ça soit des entreprises qui fassent tourner ça plutôt que des particuliers. Et derrière, le truc que je comprendrais toujours pas à propos de GNU.pg, c'est lié à l'époque où ça a été développé. C'est GNU.pg, c'est un binaire monolithique, quoi. C'est comme Git et tout ça. C'est l'idée à l'époque, c'était il y a un binaire qui implémente tout, et quand on a besoin de features qui correspondent, on appelle ce binaire, et puis voilà. Il y a qu'à voir les librairies comme GPGME, GNU.pg Made Easy. En fait, ce que ça fait concrètement, ça va pas appeler les mêmes fonctions que le binaire GPG. Ça va construire une commande GPG et ça va exec le binaire. Et du coup, c'est juste une autre manière de réfléchir les choses. Il y a encore des gens qui font ça en 2021-2022, mais ça devient quand même plus rare. Et du coup, le shell-out comme ça, je trouve ça un peu dommage. Et après, ça ouvre la porte à des implémentations alternatives.
On connaît des gens qui font du shell-out dans du Rust.
Tout à fait. disons que s'il y avait une librairie une bibliothèque fournie de base, il y aurait peut-être eu moins d'implémentations alternatives, parce que la feature, elle est là et on peut l'utiliser de façon simple et normale, ok. Là, du coup, le fait que ça soit pas le cas, dans le cas de Git, par exemple, ça a apporté libgit 2. Dans le cas de GNU.pg, il y a plutôt récemment, il y a Sequoia qui est apparu, qui est une implémentation en full Rust, et du coup, qui est une lib et qui fournit aussi des binaires, il me semble. Ça, disons que ça a du pour et du contre, ça favorise les implémentations alternatives et du coup le choix derrière, et ça évite d'avoir une seule implémentation, mais c'est dommage de pas la fournir sous forme de lib quand même, je pense. Voilà.
Je suis assez d'accord. Bien, et bien tant qu'on parle de sécurité, Exchange, magnifique. Exchange ne s'est pas tapé le bug de l'an 2000, mais le bug de l'an 2022. Donc, allez, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé sur ce bug ?
On n'est pas à l'abri qu'ils aient déjà eu un bug de l'an 2000, hein. Probablement de l'an 2010 aussi, bon.
Leur bug de l'an 2022...
Ou tout du moins qu'il y ait un patch de vendu en support pour le bug de l'an 2000.
Leur bug de l'an 2022, c'est quand même sur un outil qui est censé détecter des malwares dans les mails, et si tu fais passer cet outil-là sur des mails qui ont été envoyés avant l'an 2000, donc genre sur un mail de 1998, t'as le même bug.
Oh, c'est dramatique.
Concrètement, ce qu'ils ont fait...
Tu racontes comment ils fonctionnent ?
Concrètement, ils ont décidé d'utiliser, je ne sais pas si c'est comme ID ou autre, mais ils ont décidé de matérialiser le timestamp des mails sous une forme custom, où en gros, ils prennent en string en fait les deux derniers nombres de l'année, puis les deux nombres du mois, les deux nombres du jour, etc. Et cette string-là, ils la convertissent en longue. En signed longue, pas en unsigned. Parce qu'on ne sait jamais, on pourrait avoir des dates négatives, tu vois. le problème, c'est que avec le passage à 2022, du coup, ça donne un long qui commence par 2-2, puis d'autres nombres. Et ça, bah, ça overflow sur du signed long. Et du coup, bah, tu te retrouves avec une date négative et ça fait tout péter. C'est juste qu'ils ont décidé d'avoir une représentation custom qui donne des nombres extrêmement grands pour rien, au lieu de prendre un timestamp basique.
J'avoue que je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça. Enfin, tu vois.
Donc il y a un patch qui a été émis. Hein. Et le patch, globalement, qu'est-ce qu'il fait ? J'avais regardé. C'est un vieux script PowerShell qui change des droits... Redémarre un truc et tada, on n'a rien vu.
À noter, un des problèmes qu'ils ont eu probablement, c'est que pour que ça overflow comme ça en 2022 et pas beaucoup plus tard, ça sent le soft en 32 bits. Voilà, le soft aurait été en 64 bits, ça serait passé.
Oui, aussi, mais j'avoue.
Je crois qu'il y a une quote de. Faut que je vérifie, mais je crois qu'il y a une quote en fait de Bill Gates sur le sujet. Qui m'avait fait mais éclater. Mais parce que ça a pas mal trollé dans la galaxie open source. Force est de reconnaître que ça a quand même pas mal trollé. Voilà. Mais quel drame. Bref. Écoutez, je vous le retrouverai. Je vous le retrouverai quand jamais j'essaierai de vous mettre le lien, mais un truc genre dans la mailing list qui dit genre de toute façon le soft il sera décommissionné à ce moment-là, on n'a pas besoin de se poser de questions.
Raté.
Peut-être pour vous donner des nouvelles de Clever Cloud également, on a le plaisir de vous annoncer en ce début de nouvelle année des nouveaux arrivés dans la team Clever. Et à présent, nous avons un CTO chez Clever Cloud qui s'appelle Steven Leroux, que tu connais un peu, Pierre.
Un peu, oui. Un petit peu.
Donc, vous l'avez déjà vu dans un message à caractère informatique. On se connaît depuis longtemps avec Steven, et c'est vrai que c'est un très grand plaisir qu'il nous rejoigne pour faire avancer les sujets, parce que mine de rien, on commence à être nombreux. Et ça commence à être compliqué pour moi d'être présent sur les sujets au day-to-day, ce qui laissait des fois du flottement de mauvaise qualité. Et nous avons également Cédric qui nous a rejoint, Cédric Biron, qui nous a rejoint il y a quelques mois déjà, qui nous a rejoint là sur le poste de COO, donc il a été nommé COO. C'est pareil, c'est un grand plaisir. Donc comme vous voyez, on continue à structurer la boîte, et on dépasse bientôt là, les 30 hein, chez Clever, et on continue à avancer et construire de belles équipes, donc voilà, c'est des bonnes news, et tant qu'on y est, on a deux autres personnes qui nous ont rejoint aussi là en début de semaine, une personne qui s'appelle Julie qui a rejoint notre pôle administratif, et également Rémi Collignon-Ducré qui nous rejoint pour s'occuper de la documentation des API, des SDK, tout ça, donc voilà, ça avance bien. Vous êtes content de vos nouveaux collègues ?
Oui.
J'ai à peine eu l'occasion de discuter avec pour l'instant, mais ça annonce des trucs cool.
Ça commence à faire pas mal de cartes Pokémon en stock.
Oui, on a aussi... là, on est sur le futur, mais enfin, le futur déjà signé, mais on a pas mal de gens qui vont venir pour assister Hubert sur la console, tout ce qui est UI, CLI, etc. Et attendez-vous à des grands changements visuels ou en termes d'usage, normalement en 2022, parce qu'on va pouvoir avancer beaucoup plus vite sur toutes nos ambitions de ce côté-là.
Ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont avancer chez Clever ces prochains temps. Et c'est, vous pouvez vous attendre à voir passer beaucoup de choses. C'est très cool. En tout cas, je trouve que c'est très cool. Ok. Je vous propose qu'on commence à discuter de Kernel avec ce guide. Donc, c'est le lien d'un truc qui est The Linux Kernel Module Programming Guide. C'est un très beau guide dont la dernière mise à jour date du 28 décembre, donc on est sur quelque chose qui est maintenu, sur comment coder un kernel module pour le kernel, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, un Hello World très concret, comment le compiler. C'est vraiment un 101 de si j'avais envie de créer un kernel module, qu'est-ce que je ferais. Et j'ai trouvé que c'était hyper cool parce que c'est hyper didactique.
Il est trop bien.
Ouais, notamment ça repose bien les bases sur qu'est-ce que c'est slash proc, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est slash sys, comment ça fonctionne, etc. Et notamment pas seulement comment ça fonctionne d'un point de vue utilisateur, mais comment ça fonctionne dans le kernel et comment du coup tu interagis, voire tu crées des choses là-dedans depuis le kernel. Du coup. Et c'est pour les nostalgiques qui auraient eu l'occasion de tester à l'époque, ça rappelle un peu le projet Eudiptula qu'avait lancé Greg Poartman, où en gros l'idée c'était justement une introduction pas à pas au développement de noyaux pour le kernel, mais qui fonctionnait en essayant de reproduire de façon presque ISO en fait les contributions au kernel upstream, c'est-à-dire que tu t'inscrivais, tu recevais l'exercice par mail. Et derrière, tu devais créer un patch dessus la dernière release du kernel, et tu devais envoyer le patch par email au bot de Diptula qui s'occupait de faire tourner la CI du kernel dessus et qui te retournait est-ce que tu avais réussi ou pas, et quand tu avais réussi, ça te retournait l'exercice suivant. Du coup, c'était très immersif, c'était super agréable. Au bout d'un moment, ils avaient trop d'utilisateurs, du coup, ça bouffait trop de ressources et,
ouais, c'est ça, ouais.
Et ils ont shutdown le truc, mais c'était super cool à l'époque, c'était une super initiative, je trouve, qu'ils avaient lancée.
Et il t'envoyait les bons liens vers les docs, il te donnait pas toutes les informations, à chaque fois il te donnait juste le bon niveau d'information pour que tu passes un peu de temps à chercher, il te donnait les bons liens pour trouver, donc ça c'était vraiment vraiment cool. Et là, ce guide-là par contre, il est beaucoup plus détaillé, quoi. C'est super bien fait.
Ouais, à tester. Donc la seule chose que je trouve triste dans ce guide, c'est qu'il n'y a pas la partie... La partie en fait comment le faire avec Rust, comment faire le petit module avec Rust. Manquerait ce léger ajout de ta part.
C'est pas encore merge la partie Rust, il me semble, ou en tout cas c'est très très early stage.
On est tous à avoir un peu du Marco lagué là, c'est ça?
Oui.
Ouais, moi aussi je lag un peu. Mais ouais, c'est pour l'instant la partie Rust, c'est encore très early stage et je crois pas que ça soit fully merged, donc ça viendra probablement par la suite.
Ça marche. Bon, on attaque.
Allez.
Linux kernel 5.13. Donc le Linux kernel 5.13, ça a été release fin juin, si ma mémoire est bonne, donc on a un bon gros 6 mois de retard. Il y a comme d'hab des tonnes et des tonnes de trucs. Je sais que c'était aussi le kernel dans lequel tu avais les premières releases de support du Apple M1, si ma mémoire est bonne. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on avance dessus sur les grosses news que nous on a sélectionnées. Hein, donc comme d'habitude, dans une release kernel, il y a plein de choses. Ensuite, il y a tous les drivers de support de matos, qu'on va rarement vous en parler, sauf quand on trouve ça marrant. Et il y a plein de nouvelles où soit on s'en fout, soit on l'a pas compris, ce qui existe aussi, et qui du coup nous concerne pas spécialement. Mais dans les features principales, la première, c'est Landlock. Qui veut nous expliquer ce qu'est le Landlock ?
Bon, j'ai qu'à y aller. Du coup, le Landlock, c'est une fonctionnalité qui permet de sandboxer des process. L'intérêt de ça, ça te permet de qu'un utilisateur qui a très peu de droits, ou qui n'est pas en mode privilège, puisse dire bah voilà, mon process tourne en mode sandbox. C'est ça, j'ai bien résumé, Marco ?
Bah, c'est ça. Un des... En fait, c'est... Landlock, du coup, c'est un LSM, un Linux Security Module, où en gros, c'est ça se cale au même niveau que SE Linux, AppArmor et d'autres alternatives du genre. Et c'est ça, c'est un avantage, c'est que c'est utilisable beaucoup plus simplement dans des contextes sans droit super user. Et contrairement à d'autres solutions comme BPFSecComp dont c'est inspiré, ça va pas filtrer juste sur les syscalls et sur les arguments qu'on passe au syscall. Ça va être du filtre sur les ressources kernel en elles-mêmes, en fait, et du coup en respectant les hiérarchies telles que vues par le kernel dans les objets file system et tout ça. Et ça va avoir un fonctionnement de layering, en fait. Du coup, on peut avoir des trucs plus ou moins incrémental en héritant le contexte du parent et tout ça pour rajouter de la sandbox supplémentaire. Et voilà, du coup, ça se veut un peu plus flexible et c'est une gestion des droits qui prend pas la même direction que les trucs plus orientés qu'est-ce qui vient du userland. Là, c'est vraiment plus comment ça se passe dans le kernel, en fait.
Nice.
Je pense que c'est ce qui est important, c'est de comprendre que tout ça découle de la volonté du kernel d'être de mieux en mieux géré dans son multicœur, en fait. Si je résume les choses, ça a du sens de le dire comme ça ou pas, Marco ?
Ça dépend ce que tu entends par multicœur. Là, pour le coup, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas cœur au sens CPU du terme, en tout cas.
Ouais, mais une meilleure gestion de la sécurité et des droits d'accès te permet une meilleure parallélisation.
Ouais. Là, c'est surtout une question de configurabilité et d'auditabilité aussi. Et vraiment, le sandboxing, ça reste quand même la manière principale de prévenir en amont les comportements inhabituels et du coup les potentielles failles. Et le sandboxing maintenant, dès qu'on peut, on en met autant que possible. Donc c'est un niveau de sandboxing complémentaire par rapport au truc qui existe déjà, quoi. C'est ce qui permet, comme la plupart des additions intéressantes du kernel dans les dernières années, en fait, finalement, on a eu plein de failles qui sont tombées ces dernières années. Et du coup, on ajoute le plus possible de trucs qui pourraient permettre d'éviter ces failles à l'avenir.
Oui, on fait du préventif, quoi. Ok. Je vois qu'ensuite, on a mis dans les grandes features la CLang Control Flow Integrity. Peut-être que ça, avant qu'on parle de ça, peut-être expliquer ce qu'est CLang et quel est le rapport avec le kernel, pour commencer.
CLang, du coup, c'est le compilateur C de la suite LLVM qui a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attrait ces dernières années. Les distributions s'y sont de plus en plus mis. Je crois même que Fedora, maintenant, par exemple, compile les trucs par défaut avec CLang. Donc c'est vraiment devenu...
Peut-être rappeler qu'à la base, le kernel a toujours été construit dans l'idée qu'il était compilé avec GCC.
C'est ça, c'est-à-dire que historiquement, le kernel et beaucoup d'autres projets, on fait du GCC, et si ça marche avec autre chose, tant mieux, mais on va pas chercher à ce que ça marche, quoi. C'est avec beaucoup d'utilisation de features spécifiques à GCC, pas forcément standard, etc. Et il y a une initiative dans le kernel qui a quelques années déjà, qui visait à le rendre compilable avec CLang et la suite LVM. Ça y est, maintenant, depuis début 2021 à peu près, c'est possible de compiler le kernel avec CLang. Et du coup, ça a ouvert un certain nombre de portes du coup, pour utiliser des features spécifiques à CLang aussi quand on l'utilise à la place de GCC. Tout comme il y a des features spécifiques à GCC quand c'est lui qui est utilisé. Et ça a permis de moderniser plusieurs choses. Et du coup, en fait, progressivement, en apportant des nouvelles features avec CLang, on s'est rendu compte, mais en fait, c'est super cool comme feature, c'est dommage d'être passé à côté pendant aussi longtemps. Est-ce qu'on pourrait le faire aussi pour GCC ? Et du coup, le noyau s'est mis à supporter uniquement des versions plus récentes de GCC aussi. Genre là, maintenant, il me semble qu'il faut au moins GCC 5, alors qu'il n'y a pas si longtemps, ça supportait encore GCC 3. Parce que justement, ils se sont mis à ajouter des features plus sympas aussi dans le cas de GCC. Et là, le... par exemple, il y a le support de LTO aussi qui a été ajouté au kernel récemment. Ça a donné lieu à beaucoup de discussions parce que Linus n'était pas trop pour, parce que c'est un peu de la magie faite par le linker finalement pour économiser des codes passe et tout ça. C'est une passe d'optimisation supplémentaire au moment du link en fait, qui essaye de supprimer des étapes supplémentaires pour que ça aille plus vite et ce genre de choses. Mais finalement, le gain de perf et de place était suffisamment intéressant pour que ça soit passé. Et après, du coup, maintenant, on a le Control Flow Integrity était déjà là, je crois, mais là, c'est le support pour ARM64, notamment, qui a été ajouté. Et l'idée, c'est pareil, c'est toujours dans l'esprit de... on va faire en sorte qu'il n'y ait pas une grosse faille qui sorte du jour au lendemain. Là, l'idée, c'est ça va essayer de détecter au runtime le plus possible des situations qui vont amener à des undefined behavior, qui sont donc des comportements qui n'ont pas de spécification et qui, du coup, ça peut dépendre du jour, de la date, de manière random. Ça peut faire une chose ou une autre et on ne sait pas par avance ce que ça va faire. Et là, ça essaye de détecter ce genre de situation et de crash. Concrètement, ça va crash. Au lieu d'arriver dans une situation où on ne maîtrise plus ce qui se passe et qui pourrait du coup être vecteur d'attaque.
Oui, il vaut mieux crasher que de leaker de la data, ouais. Ou du privilège, ou whatever.
C'est ça.
On est d'accord que quand tu parles de LTO, c'est Link Time Optimization, c'est ça ?
Tout à fait.
Peut-être expliquer ce que veut dire cette opération Link Time Optimization pour tout le monde. On a fait beaucoup de pédagogie déjà sur les compilos ce matin, mais c'est peut-être une bonne chose.
Bah c'est comme je disais, c'est le fait quand le compilateur fait des optimisations, donc il va parser le code et il va faire l'arbre syntaxique et il va voir s'il n'y a pas des raccourcis qu'on peut prendre à droite à gauche ou bien fusionner des étapes pour qu'il y en ait moins. Là ça va être un peu la même chose, sauf que ça va pas se baser sur l'arbre syntaxique qui est généré à partir du code. Ça va gérer les différents modules de compilation qui ont été créés par le compilateur. Et pareil, ça va essayer d'en fusionner certains entre eux. Ça va regarder, là, pour aller de ce module-là à ce module-là, on passe toujours par cet endroit-là, est-ce qu'on pourrait pas unifier ce chemin aussi ? Et ça va essayer de faire des optimisations comme ça qui vont permettre de gagner d'une part de la place et d'autre part de la performance sur certains traitements. Ça prend plus de temps à compiler nécessairement parce qu'il y a une étape supplémentaire, mais ça a des gains en général qui sont non négligeables.
Aujourd'hui, l'utilisation de LLVM, ça a un impact performance ou pas quand on compile son kernel ?
Ça dépend des sujets en fait. Il y a des sujets sur lesquels on voit un net gain de perf, il y a des sujets sur lesquels on voit des régressions, parce que les différentes choses ne sont pas forcément implémentées ni optimisées de la même manière par C-Lang et par GCC, mais il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus. Et au-delà des gains de perf, ça gagne aussi en clarté. Notamment, par exemple, il y avait des fonctionnalités assembleur qui n'étaient pas aussi bien supportées dans C-Lang que dans GCC. Du coup, ça a amené les gens du kernel à réécrire des bouts d'assembleur en C, finalement, en s'assurant que le code assembleur généré par GCC, par exemple, restait similaire et qu'il n'y avait pas de régression à ce niveau-là. Et ils se sont aperçus derrière que du coup, le code généré par C-Lang était meilleur. Tu vois, c'est...
La perf en assembleur, elle est aussi liée au fait que GCC progresse lui-même. Et donc, des fois, il y avait des optimes que tu faisais en assembleur direct qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de sens dans une nouvelle version de GCC. Hein, c'est... Ok. Toujours sur de la sécu, il y a une méthode pour randomiser les adresses de la stack qui est proposée. Pour tout ce qui est pour tous les syscalls, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup bosser Marco là.
En fait, il y a dans les failles de sécurité exploitables au niveau kernel, il y a beaucoup de trucs où c'est parce qu'on peut prévoir à quel endroit de la mémoire va être une information, et du coup, si on peut s'arranger pour avoir un overflow dans un coin ou autre, on va pouvoir contrôler à quel endroit de la mémoire on va écrire quelque chose pour overrider des privilèges ou autre. Du coup, de plus en plus, il y a des features qui ont été ajoutées au noyau pour faire en sorte que on ne puisse plus prévoir en fait ces choses-là et que les choses soient placées à des endroits random de la mémoire. Là, ça a été ajouté au niveau des syscalls, où en gros, par défaut, pour un syscall donné, en fonction du contexte, on va savoir comment vont être rangées les choses dans la RAM au niveau de la stack. L'idée, c'est que on va plus pouvoir le prédire, ça va être calculé à la volée en fait en fonction de différents paramètres, et ça va éviter une partie de ces failles-là. Ça vient avec du coup un gain de sécurité. Par contre, c'est vraiment destiné à des systèmes très très critiques niveau sécu et tout ça, et qui n'ont pas forcément besoin de perf oufissime, mais qui veulent vraiment privilégier la sécu sur les perf. Parce que pour le coup, c'est un coût en performance qui est clairement pas négligeable. Il y a un bon gain de sécu, mais il y a une grosse perte de perf avec ce genre d'outil.
T'as un pourcentage
J'ai pas d'idée en tête, mais.
Ça va être extrêmement variable en fonction de ton use case et du nombre de syscalls.
Ça va dépendre des syscalls et tout ça, mais ça peut diviser tes perfs par deux sans problème, quoi, tu vois.
Ah oui, d'accord, oui. Ok.
Ouais, mais ça peut avoir, à mon humble avis, beaucoup d'usage dans des use cases particuliers, tu vois. Je pense que ça peut avoir d'usage. Comme on l'a dit, c'est aussi la première version du Apple M1 Support. C'est la première version du Apple M1 Support. Vous n'utilisez pas le CPU dans son intégralité, dirons-nous. Hein. En clair, vous avez un Raspberry dans un M1. Les processeurs neuraux, le GPU, tout ça, vous en servez pas, quoi.
Ouais, pour le moment, ça boot. C'est globalement ça boot. Et tu peux utiliser FreightBuffer avec du Serial Console.
Je crois qu'à l'époque, je sais que ça a changé depuis parce qu'il y a des gens qui bossent dessus à fond, mais je crois qu'à l'époque, globalement, même l'USB, tu n'y avais pas accès, quoi. Enfin,
oui, c'est ça.
Pour l'instant.
En 5.13, ouais, tu n'as pas l'USB, le PCI, le NVMe, enfin, t'as rien, quoi. Tu boot. Le proc marche. Enfin, le petit morceau du proc, un petit morceau du proc marche.
Tu as un Raspberry très rapide qui ne supporte pas USB dans ta machine. C'est bien.
Mais c'est déjà pas mal, hein, parce que tu dois reverse engineering, il n'y a pas de doc pour ce genre de truc, hein.
Oui, c'est ça. C'est ce qui me paraissait important, c'était d'introduire ça. En fait, la doc processeur d'Apple sur le M1 est, comment dire, inexistante, en fait. Hein. Ils l'ont probablement en interne, mais ils l'ont pas des masses libérées. Et donc, globalement, aujourd'hui, réimplémenter, par exemple, les fonctions GPU, faut faire du reverse engineering, regarder ce qui se passe dans le niveau des processeurs sous macOS, essayer de comprendre ce que chaque instruction veut dire pour être capable de réimplémenter un driver, pour être capable de faire fonctionner le GPU du M1 sous Linux. Donc c'est pour ça que le sujet est long. Par contre, c'est un sujet excitant, donc il y a pas mal de gens qui bossent dessus, et il y a un certain nombre de projets dédiés là-dessus, parce qu'il y a des gens qui s'amusent. Je sais pas très bien quelles pourraient être les applications concrètes et industrielles de tels travaux, mais voilà, il y a des gens qui bossent dessus en tout cas.
Tu veux pas faire dual boot sur ton Mac, du coup? Ça ouvre ça comme possibilité. Mais bon.
Ouais.
Après, un très long terme, on va dire.
C'est le côté Apple, et moi je trouve ça très déceptif de la part d'Apple de procéder comme ça. Parce que par contre, Apple a fait un produit qui est extrêmement excitant. J'ai trouvé le produit Apple extrêmement excitant au global. Dans le proc, hein. Par contre, c'est clair. News suivante, BPF, Program Can Call Kernel Function. Je suppose que ça, c'est plutôt pour Judu, c'est ça?
Oui, donc alors petit rappel de ce que c'est que BPF, Berkeley Packet Filter, de son petit nom, qui fait bien plus que ça maintenant. Si je dis pas de bêtises, c'est des programmes qui sont compilés, enfin, c'est un framework qui nous permet de compiler des petits programmes qui vont être exécutés normalement en kernelland avec des fonctionnalités très limitées, un scope très limité, mais globalement ça a été fait pour pouvoir faire plus rapidement des du packet filtering, tu vois, enfin faire du, comment on appelle ça en français, du firewall. C'est pas du tout un mot français, mais c'est pas grave. mais voilà, implémenter un firewall, implémenter des fonctions réseau, et puis ça va aussi plus loin. Voilà, en gros, ça peut s'exécuter en hook à certains syscalls, etc., pour des questions de sécurité, pour des choses comme ça, et c'est plus rapide, forcément, que les alternatives qui existaient avant, qui globalement s'exécutaient en userland, et donc forcément qui étaient moins rapides. Et là, en gros, on peut appeler des fonctions directement du kernel, alors que avant, en fait, un programme BPF, c'est vraiment un truc qu'on écrivait et qui fonctionnait vraiment en vase clos, c'est-à-dire c'est lancé dans une VM, un exécuteur, etc., un petit peu à part dans le kernel, et il y avait accès à rien d'autre, c'est-à-dire qu'on lui envoyait des données et on appelait la fonction BPF en lui envoyant des données, et la fonction de BPF retournait quelque chose en faisant ses propres calculs. Mais globalement, elle pouvait pas sortir
de la machine virtuelle.
C'est une machine virtuelle.
Hein, c'est limite.
Oui, c'est ça. Et donc voilà, donc c'était
dans le sens
JVM, par exemple.
Dans le sens JVM. Ouais, moi je parle dans le sens JVM.
Ouais. Donc avant on pouvait pas sortir de là, et du coup on avait accès à un nombre assez limité de fonctions, et là en gros il y avait notamment un besoin pour de réutiliser certaines implémentations du kernel de gestion de la congestion TCP, et donc ils ont ajouté le fait de pouvoir appeler certaines fonctions du kernel directement depuis le programme BPF. Ce qui rajoute, pour le coup, énormément de fonctionnalités au programme BPF qu'on peut faire. Ouais.
Juste petite précision, une des contraintes, notamment au niveau ce qu'on peut faire dans un programme BPF, c'est qu'un programme BPF, il n'est pas Turing complet, il ne peut pas retourner en arrière. Il va forcément en avant, il peut sauter des instructions de manière conditionnelle, mais il ne pourra jamais revenir en arrière dans les instructions. Du coup, il est garanti de
se terminer
à un moment.
Ouais. Ce qui fait que toutes les fonctions du kernel ne sont peut-être pas disponibles si on veut pouvoir garantir cette fonctionnalité-là.
Le sujet suivant qui est intéressant, c'est dans les six groupes. Il y a maintenant une structure de données dite MISC, M-I-S-C, pour dire MISC Aleus, c'est genre un peu n'importe quoi, c'est mettez votre truc à l'intérieur pour faire des six groupes sur des choses qu'on pourrait compter, quoi. Donc pour ceux qui se souviennent pas, les six groupes, c'est ce qu'on appelle les control groups. C'est quelque chose qui est fait pour limiter à des quotas l'utilisation de ressources par un namespace donné de processus, c'est donner des quotas d'accès aux ressources avec des sujets plus ou moins successful là-dessus, parce qu'il y a des choses qui sont très très compliquées à limiter. Et là, l'idée, c'est plutôt de fournir, si j'ai bien compris, un framework, c'est ça, pour que un constructeur matériel dans son driver soit capable de fournir un modèle de six groupes, c'est ça le modèle ?
Bah, en gros, les six groupes, ça permet de regrouper un set de processus et de lui appliquer des limites. Et l'idée, c'est il y a des six groupes prédéfinis pour contrôler la mémoire, les ressources CPU et tout ça. Là, ça va être des six groupes où on va pouvoir définir des règles custom, genre tu peux faire t'as un compteur qui est limité, je sais pas, à 256, et derrière dans ton programme, quand tu vas faire des actions spécifiques, ça va incrémenter ce compteur ou le décrémenter, Et bah, si tu arrives à la limite, ça fail comme n'importe quelle limite de mémoire ou autre du C-Group, quoi. C'est juste que ça va être cantonné vraiment à des métriques que tu peux représenter sous la forme d'un compteur que tu vas pouvoir incrémenter ou décrémenter en monitorant ce qui se passe.
Mais du coup, l'idée, c'est quand même que ce soit utilisé plutôt par les constructeurs de matériel pour fournir une intégration à ces groupes.
Ça, là, ça, disons que c'est vraiment plus des trucs niches en mode... ouais, voilà, par exemple, dans un driver hardware, je veux pas avoir plus de 10 process connectés à cette feature spécifique du hardware ou ce genre de truc, tu vois. C'est...
Ouais, enfin, ça pourrait avoir vachement de sens dans le cadre où aujourd'hui, de plus en plus de processeurs vont avoir des SOC et, par exemple, on pourrait gérer l'accès au Neural Engine sur ta puce via ça, ou on pourrait imaginer mettre des C-groups sur la quantité de données que tu peux aller coller dans le fameux SGX d'Intel, tu sais, l'enclave sécurisée que tu aimes tant, Marc-Antoine.
Tout à fait. Ouais, c'était
une tentative de transition, c'est ça ?
C'était une très bonne transition, oui. Enfin, c'est, dans les,
non,
dans les
bouts, parce que... Non, voilà, si, allons sur les SGX. Quand même, SGX supporte.
C'est ça, c'est dans les nouveautés de la version 5.13, nous avons aussi le support des enclaves SGX pour les guests KVM, où du coup, les machines virtuelles qui tournent avec KVM peuvent avoir accès à leur petit bout de l'enclave SGX du serveur pour y stocker des données de façon très sécurisée.
Non, mais c'est quand même une super bonne news, parce que si tu veux aujourd'hui passer ce temps à vendre des CPU alors qu'on peut pas s'en servir d'un point de vue virtuel de certaines features, c'est un peu dommage vu la quantité de choses sur le serveur que tu fais dans une machine virtuelle de toute façon. Donc c'est quand même une bonne chose que ça a été fait. Et tant qu'on parle de virtualisation, parce que en 5.13 il y avait pas des masses de choses, mais il y avait un truc drôle, c'est que maintenant il y a un driver Virtio pour tout ce qui est son, ce qui va permettre à des machines virtuelles d'aller envoyer du son. Et
de manière efficiente.
Ouais, de manière efficiente et avec un mix de son cool. On pourrait même imaginer on pourrait même imaginer aller faire tourner un Jack D, par exemple, tout seul dans sa machine virtuelle pour le faire. Est-ce que ce serait une bonne idée ? Je ne sais pas.
Mais c'est possible.
Mais on pourrait faire ça.
Autant un Pulse, à la limite, mais un Jack D, vu que c'est censé être pour du real-time, Virtio, ça a beau être le top niveau perf en virtu, pour du real-time, j'irai pas jusque-là. C'est...
Je te l'accorde. Non, par contre, le sujet qui est intéressant là-dedans, c'est que je trouve que ça relance des choses qui sont qui est intéressant, c'est tu sais, t'avais des OS où toutes les applications étaient virtualisées dedans. Ça s'appelait pas Cube avec un Q, ce truc.
Si, c'est fait par une russe là. C'est une russe qui a fait ça sur Xen avec où tes applications avaient même un code couleur en fonction de la VM dans laquelle. De laquelle elle tournait, etc.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, c'est bien. Cube avec un K. Ce truc-là.
Ouais, c'est toujours maintenu. Ouais. Comment il s'appelle?
C'est toujours maintenu. J'avais rencontré un des gros mainteneurs dans le monde d'avant, quand il y avait des conférences à InfosDem. J'ai eu une longue discussion qui avait été, ma foi, fort intéressante avec cette personne. Et,
c'est avec un Q, c'est ça.
Ouais, c'est avec un Q. Ouais. Et il y a un mini summit en 2021 qui a eu lieu. Donc, Si, le truc existe toujours. Et en vrai, le modèle est hyper intéressant. Et clairement, je pense que des modèles comme ça, où tu pourrais enfermer totalement dans des machines virtuelles des applications graphiques running, mais dans un modèle assez agréable d'accès, ça a du sens. Et là, Virtio pour ça, ça a du sens. Je pense que l'autre raison d'exister de cette extension, elle doit être pour les gens qui font du cloud gaming, non ?
Oui, ouais, genre les gens qui veulent une VM Windows pour jouer à des trucs compatibles que Windows, par exemple, sinon ça peut être potentiellement utile pour eux.
Ah oui, aussi. Donc voilà, Ça, c'était les small news en virtualisation. Il y a quelque chose dont je ne comprends pas bien l'intérêt, mais je suis sûr qu'on va me l'expliquer. C'est le ZSTD Compressed Module.
On a déjà eu l'occasion de parler de Z standard dans des épisodes spécial kernel, entre autres, au moins. C'est donc une solution développée initialement par Facebook qui fait de la très bonne compression de façon très performante, qui est du coup une des alternatives privilégiées quasiment partout maintenant, parce que c'est un des algos les plus rapides et qui a une compression vraiment plutôt pas mal comparé à ce que pourrait faire du gzip, par exemple. Et du coup, ça avait déjà été ajouté dans le noyau, notamment BetterFS supporte de compresser des données automatiquement avec. Il y avait eu le support des initRD compressés avec ZSTD aussi il y a pas si longtemps que ça. Et là, ils ont ajouté le support aussi des modules compressés avec Z standard dans la 5.13, donc, ce qui permet d'avoir des modules compressés plutôt pas trop mal, sans perdre trop de temps à faire la compression à la compile, et surtout la décompression, c'est presque comme si c'était de taille normale, en fait, c'est comme si c'était pas compressé, l'algo est suffisamment performant pour ça, du coup, ça fait du gain de place, en fait, c'est principalement ça.
En fait, les modules étaient déjà globalement compressés. Enfin, je sais pas si c'est par défaut, mais globalement, la plupart des gens compressent les modules pour gagner un peu de place quand même sur l'OS, notamment parce que on a quand même cette habitude d'avoir une partition du root qui parfois est assez petite et parfois on se rend compte qu'elle est trop petite quand on commence à essayer de stocker dessus des core dump de systemd et mais voilà, et en fait on compressait déjà en fait les modules kernel la plupart du temps, sauf que là on vient juste cette fonctionnalité là vient juste d'ajouter des énormes perfs, parce que le truc par défaut ça devait être du gzip, bon après il y avait du bz2 souvent qui était utilisé. Et voilà, du coup on gagne surtout des perfs, quoi, parce que la compression était déjà plus ou moins là. Mais c'est bien de gagner des perfs. Surtout vu que les processeurs nous ont fait perdre des perfs avec les failles et qu'on rajoute des trucs de sécurité qui nous font perdre aussi des perfs. On prend tout ce qu'on peut.
On équilibre.
Sinon, vous pouvez aussi compiler directement vos modules, les modules dont vous avez besoin dans votre kernel. Quand vous compilez votre kernel, ça vous évite d'avoir à gérer les modules du kernel. Sauf si vous avez ma carte Wi-Fi qui m'oblige à activer le support des modules et à compiler le module du Wi-Fi. En module et non pas directement dans le kernel.
Tu peux pas l'inclure ?
Je peux pas l'inclure. Le microcode. Je peux l'inclure, mais que en tant que module. Je peux ne charger le Wi-Fi que en mode module. Non, c'est extrêmement bizarre.
Tu peux l'inclure.
Non, mais tu peux le compiler dedans, mais c'est juste qu'il marche pas.
Si, si. D'accord. Si, tu c'est peux. Ça. Tu peux, il faut juste que tu dises à ton kernel d'embarquer le microcode aussi.
Je le faisais, mais il y avait un bug. J'avais testé à l'époque où j'avais installé ce PC et non, je crois que c'était le PC d'avant. Mais bref, où j'avais, je sais pas, j'ai 200 lignes de doc perso où j'ai tout essayé, toutes les options, etc. Et le seul truc qui fonctionnait, c'était de le charger comme un module. Bref.
Il y a un nouveau subsystème dans la partie network du kernel qui s'appelle le WWAN. Qui a mis cette news ?
C'est moi.
Non mais je t'en prie, genre explique. Qu'est-ce que le WWAN ?
C'est le Wireless Wide Area Network. C'est concrètement c'est la 4G, la 5G, c'est le modem, qui prend une carte SIM dans l'ordinateur du coup pour avoir du réseau mobile. Il s'était déjà supporté, mais de manière très j'expose un device de type console et le user land se connecte en mode port série et écrit des instructions port série dans le device. Pour l'instant, c'était en mode très très roots bas niveau comme ça. Et du coup, il y a des gens qui se sont dit, ça serait bien d'avoir une surcouche pour unifier ça parce que les protocoles sont relativement homogénéisé maintenant entre les différents modems et compagnie. Du coup, ils ont décidé de créer un nouveau subsystème pour homogénéiser ça et pas avoir à réimplémenter tout à la mano dans tous les process userland pour la communication avec avec les modems. Et voilà, du coup, dans la 5.13, c'est vraiment juste la structure initiale du subsystème. À voir ce que ça va donner dans le futur, parce que ils avaient déjà essayé ça, notamment par exemple avec NFC par le passé. C'était Intel qui avait poussé ça. Ils avaient ajouté un subsystème NFC et un joli démon userland qui s'appelle NearD, qui était maintenu par notre shell Samuel Ortiz de chez Intel. Mais ils ont un peu abandonné le projet maintenant, et en fait, tout le monde quasiment utilise une implémentation userland qui passe en mode USB comme des gros salles par le kernel, en bypassant totalement le subsystème NFC. Donc à voir si le subsystème W1 aura plus de succès que le subsystème NFC ou pas. C'est wait and see.
Et sinon, toujours dans cette partie I.O., on a I.O. Uring qui a toujours des améliorations, et toujours des améliorations dans I.O. Uring. Qui a mis cette amélioration ? C'est toi, Judy ?
Non. Il y a des améliorations dans I.O. Uring, je ne sais même pas ce que celle-là fait exactement.
C'est une fonctionnalité qui s'appelle... Ils ont ajouté le support du multi-shot mode, et j'avoue, je n'ai pas compris.
En gros, pour faire très simple de ce que je pense en avoir compris, pour l'instant, I.O. Uring, la manière dont ça fonctionne, c'est t'ajoutes une instruction à une queue, et derrière, t'attends d'avoir la réponse sur une autre queue, comme ça, de manière asynchrone. C'est un peu comme IOCP sur Windows et tout ça, c'est en mode, tu queues une tâche et t'obtiens une notif quand la tâche est finie. Mm-hmm. Et du coup, pour l'instant, c'était de la notif en mode one-shot, tu vois, c'est tu queues une tâche, quand elle est finie, t'as une notif, et puis voilà, la tâche elle est détruite. Là, l'idée, c'est de pouvoir enqueue une tâche dans la queue qui va pouvoir être récurrente en fait, et du coup avoir une notif dans la queue de retour à chaque fois que l'action a été terminée, par exemple. Notamment, je crois qu'ils ont ajouté un fonctionnement de retry aussi pour tout ce qui est IO non bloquant. Du coup, maintenant quand l'action se prend une erreur woodblock, y a moyen de dire à IO Uring de la retenter plus tard pour voir si ça passe. Et du coup, via ce type de mécanisme, tu peux avoir une notif dès qu'il y a eu de l'avancement sur l'IO, par exemple. En mode, là j'ai écrit 10 des bytes que tu voulais écrire. Là j'en ai écrit 15 autres. Là ça y est, j'ai fini d'écrire le reste.
Oh, c'est trop bien ça.
Voilà.
C'est vraiment trop bien.
Mais t'as le... C'est le lead dev d'IO Uring qui travaille sur Facebook, qui publie souvent des benches et ses avancées. C'est super impressionnant ce qu'on arrive à avoir sur un seul cœur. On commence à, je crois qu'on tapait les 10 millions d'opérations juste avant.
Ouais, tout à fait. Il a dû changer l'output de son outil de bench parce qu'il commençait à y avoir trop de chiffres et les gens râlaient. littéralement, il a dû changer pour plus display en kilo machin, mais en méga machin.
Trop bien. Ça va changer énormément de choses. Hein. Côté data, côté base de données et network.
Après, sur la release, enfin, IO Uring, ça va être incroyable. Enfin, là, pour l'instant, vous avez les tout débuts d'IO Uring qui commencent à arriver dans les softs. Mais en vérité... Ça va être incroyable, tout ce que IO Uring va apporter. Là, je pense qu'après, on a fait le tour des grosses news de la 5.13. Il y a donc l'ajout d'un certain nombre de drivers, comme d'habitude. Il y a des nouveaux SOC. En un peu drôle, il y a des nouveaux SOC. Rien de bien incroyable, mais... Il y a un petit nouveau SOC de chez STMicroelectronics qui est sympa. Il y a le nouveau QuadMax aussi de chez NXP qui est là. Donc, c'est cool. Tout ça avance avance tranquillement et je pense que c'est une bonne chose. Et puis après, dans les autres nouveautés, il y a le contrôleur de jeu de chez Amazon aussi qui a été ajouté. Et dans l'arbre X86, il y a eu beaucoup de boulot, mais on en a déjà parlé sur KVM. Il y a eu aussi beaucoup de boulot sur KVM dans l'arbre ARM, ce qui prouve que ARM est en train de prendre vraiment une place d'exécution à la fois serveur et laptop classique, parce que voilà, la virtualisation aujourd'hui, c'est un standard de processeur pour tous ces usages-là, et je pense que tout le boulot qui est fait en ce moment sur les architectures ARM autour de ces choses-là montre bien, et la vitalité de la partie ARM du kernel est assez impressionnante. Enfin, clairement, c'est assez impressionnant. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la 5.13. Je vous propose de nous quitter en musique et de nous retrouver la semaine prochaine avec la même équipe pour dépiler 5.14 et 5.15. Et quelques news qu'on aura. Donc peut-être Julien, tu nous expliques ta musique.
Allez, parce que j'étais le seul à préparer une musique, du coup on va même pas lancer le dé. Ouais, c'est un mashup, parce que comme les gens qui me connaissent le savent, j'aime beaucoup les mashups, et je vous en avais fait un dans un épisode précédent, et là il y a un mashup qui est sorti en mai déjà et que j'ai écouté en boucle sur le moment tellement il m'a explosé le cerveau. C'est Pomplamoose, j'ai déjà parlé de ce groupe. C'est un couple là qui a monté ce groupe là. Le mec du couple, c'est le patron de Patreon. Le fondateur aussi de Patreon. Voilà, et donc là, ils font un featuring KO, un type que je connaissais pas d'écouter ce mashup. Ils mashup Every Breath You Take. Vous savez, la chanson ultra creepy avec le mec qui fait du. Qui stocke une meuf, là, ou qui stocke on sait pas trop qui d'ailleurs. Et 500 Miles, je sais pas si vous voyez cette chanson là, qui est à la fin souvent dans les films de. Ken Loach ou ce genre de choses. Enfin, vraiment, là, la chanson When I Wake Up, Well I Know I'm Gonna Be. Enfin, bref, je vous laisserai écouter. Et le mashup des deux est complètement improbable, mais la première fois que je l'ai écouté, il m'a fait, vous savez, un peu comme quand on mange un truc trop froid et qu'on a mal à la tête. Tellement c'est improbable, mais qu'en fait, ça rend super bien dans leur version. Donc, voilà, je vous invite à l'écouter. C'est super bien.
Et ben voilà, donc on vous lance pendant ce temps-là, et puis bah du coup on vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Je constate qu'on a été dans le timing, et on vous dit tous à la semaine prochaine. Allez, à plus tous.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.